Parfait.
C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut, bienvenue dans le Super Daily. Ce matin, bonjour à tous les parents et aussi à tous les enfants, car nous sommes tous les enfants de quelqu'un. J'ai moi-même reçu l'éducation d'un groupe de rap connu de tous, hein, des pères du rap, connus pour leur amour de la maternité d'ailleurs, qui déclaraient déjà en 1998 « Laisse pas traîner ton fils sur les réseaux si tu veux pas qu'il glisse poteau ». Eh oui. Alors ce matin, nous avons décidé d'aborder un sujet qui nous paraît essentiel en social media, que l'on soit mère, fille, père, fils ou d'un esprit sain, c'est celle de la place des enfants sur les réseaux sociaux. Et oui, à partir de quel âge peut-on être sur les réseaux sociaux? Quelles sont les règles, les lois existantes qui encadrent cette question? Et puis, quelles sont les tendances pour cette génération qu'on appelle une génération social media native? Quelles sont, comment les marques font pour aller viser ces enfants qui petit à petit arrivent sur les plateformes? Et pour disséquer ce sujet, j'ai le plaisir d'être avec un de mes pères que j'ai choisi pour m'accompagner, car il a sûrement déjà eu beaucoup d'enfants. Bonjour Camille Poignant.
Salut à Jan, salut à tous. Et bah, c'était une très belle tirade. Je vous rappelle juste, on est dans le Super Daily, c'est notre podcast et on va parler d'un sujet très particulier, les enfants aujourd'hui.
Effectivement, les social media natives, comme on les appelle. On parle là de ceux qui ne sont pas seulement nés avec Internet, mais qui sont nés quasiment avec les réseaux sociaux. Il y a une étude justement qu'on va un petit peu disséquer dans l'introduction de ce podcast, puis qui nous a un peu aidé dans l'écriture de ce podcast, de cet épisode. C'est une étude qui s'appelle justement Born Social.
Elle a été faite par l'agence Even en fin 2019, fin d'année dernière. Alors elle est super poussée, elle a été effectuée sur 1921 élèves français de toute la France, de 5e et de 6e. Ils ont suivi vraiment les process d'enquête sous forme d'interviews vidéo plus données publiques. Là, on a juste une partie de l'étude, on vous mettra le lien. Elle fait quand même 41 pages et à vous, parents, ça peut donner quelques frissons parfois.
Et encore, je crois que les 41 pages qu'on a, c'est un résumé de l'étude qui est encore plus détaillé. Effectivement, c'est une étude qui repose sur... Sur une étude quantitative, auprès d'élèves de collège de 11 et 12 ans, comme tu le disais, et qui repose aussi sur des contenus et des données qui sont publics. Le premier chiffre qui fait mal, que j'ai pris un peu en pleine, comme une bonne porte dans la tronche, c'est que 84% des enfants de 12 ans ont un smartphone. C'est énorme, c'est incroyable.
Ouais, c'était une bonne excuse au début quand ils partaient au sport, comme ça on pouvait les contacter, mais maintenant c'est devenu une tradition.
Ouais, c'est là où tu te rends compte que t'es vraiment vieux, parce que moi je me souviens que j'ai eu mon premier téléphone quand j'ai eu mon brevet, donc en seconde, et aujourd'hui je me dis ok, en fait à 12 ans c'est quoi, c'est l'équivalent de la 6e, à peine 6e, 5e, et il y a 84%, 8 enfants sur 10 qui ont un smartphone, c'est énorme, et ils passeraient 2 heures en moyenne sur internet
par jour.
Oui, bien sûr, j'ai pas presté.
Ouais, et moi je parlais hier avec nos collègues du temps qu'on a passé dans notre jeunesse à lire les paquets de céréales le matin. Aujourd'hui bien sûr on lit des articles pour préparer le Super Daily, mais la vie a bien changé quand même.
Ouais, je trouve ça hallucinant, mais au final, il y a une forme de logique. C'est pas si étonnant que les enfants soient autant sur les réseaux sociaux quand, de toute manière, leurs parents déjà y sont, leurs grands frères y sont, dans leur famille, tout le monde y est, leurs amis, c'est un effet qui est logique.
Et d'ailleurs, il y a un truc qui dans cette étude qui m'a fait rire, c'est que les jeunes arrivent sur Snapchat parce que c'est leur maman qui leur a montré.
Ouais, j'ai vu le témoignage d'un gamin qui
dit
ça.
Donc à nous de choisir, voilà.
Et il y a un chiffre qui est intéressant justement pour aller plus dans le social media, c'est qu'un enfant sur deux est inscrit sur un réseau social, donc c'est quand même impressionnant, et 90% d'entre eux le sont en troisième, c'est quand même fou.
Oui, voilà, et les enfants de cinquième sont en moyenne inscrits à 3,6 plateformes sociales. Voilà. Voilà,
donc en gros, à partir de la 6e, 5e, il y a déjà la moitié des enfants qui est sur les réseaux sociaux et sur plusieurs plateformes à la fois en plus. Et puis après, plus ils grandissent, en 3e, ils sont quasiment tous sur Instagram, Facebook,
quand toi,
sur Snapchat,
parent,
sur TikTok.
Ton utilisation de Snapchat se limite à Candy Crush et que ton Facebook, tu y vas une fois toutes les semaines, et eux, ils sont sur 4 plateformes en 5e.
Ouais, c'est assez dingue. Alors, on va rentrer un peu dans le détail et notamment sur les limites d'âge parce qu'on a envie d'y voir un petit peu plus clair. Alors, c'est assez simple. Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Les plateformes respectent la législation américaine pour ça. qui limite l'âge du coup à 13 ans. C'est le cas par exemple du groupe Facebook avec Facebook et Instagram. Et pour entrer un peu plus dans le détail, la loi américaine interdit la collecte des données personnelles sur des jeunes de moins de 13 ans. Donc forcément pour s'inscrire, il y a une donnée de collecte personnelle, ce qu'on donne son prénom, son nom, sa date de naissance, le pays dans lequel on vit, etc. Et créer un compte avec des fausses informations constitue une infraction d'utilisation des réseaux sociaux et même pour une personne qui a moins de 13 ans.
Alors, donc l'accès débute à partir de 13 ans et jusqu'à 15 ans, ils doivent avoir le consentement de leurs parents. Et c'est marrant ce que tu dis, hein, cet accès est en effet limité. Donc très jeunes, ils apprennent à ne pas lire les petites lignes comme nous on le fait et à mentir sur leur âge. Toutes les plateformes aujourd'hui, elles sont obligées d'afficher ces étapes de validation. D'ailleurs, il y en a que j'ai découvert au travers de l'étude. Hein, quand tu mets une date de naissance qui est trop jeune, tu as une autre page qui apparaît en disant « Avez-vous le consentement de vos parents ?» Parce que là, vous êtes trop jeune. Et aujourd'hui, tout ça génère en fait une génération d'enfants invisibles. C'est des enfants qui sont cachés sous de faux âges en fait sur les plateformes. Donc, ils sont invisibles aux yeux de la loi. Mais une fois inscrits, ils ne sont pas toujours si invisibles. J'ai fait un petit tour sur les hashtags. Et figure-toi que sur Instagram, si tu t'amuses à regarder hashtag 11 years old ou 10 years old, tu as quand même 400 000 publications.
Et oui.
Et là, tu les trouves facilement.
Et on les retrouve assez facilement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu parlais de l'histoire du consentement. C'est la loi française qui a évolué dernièrement, justement, parce qu'il y avait beaucoup de moins de 13 ans qui allaient sur les réseaux, qui a évolué avec la loi RGPD, un règlement général sur la protection des données, qui a été adopté le 25 mai 2018, et il renforce, comme tu disais, le consentement et la transparence sur l'utilisation des données. Et ce qui a changé à ce moment-là, c'est que justement, en fait, à partir de 15 ans, les enfants peuvent, enfin un ado du coup, peut consentir seul, comme un majeur, à la collecte de ses données personnelles. Donc il peut clairement s'inscrire sur les réseaux et valider tout un tas de choses tout seul, sans demander l'avis de ses parents, alors que les 13-14 ans, eux, ont besoin du consentement de leurs parents. Et quand on a moins de 13 ans, on n'a juste pas le droit d'être sur les réseaux sociaux.
La dernière limite qui leur reste après, c'est j'ai moins de 18 ans et puis après bah, c'est des adultes quoi, ça va très vite.
Exactement. Alors on peut déjà faire un petit tour sur les plateformes hein, sur lesquelles ils sont, on va le faire rapidement parce qu'on avait déjà un épisode qui s'appelait je crois où sont les moins de 13 ans sur les réseaux sociaux que je vous invite à aller écouter.
On remettra le lien.
Ouais, on remettra le lien dans les notes où on rentrait un peu plus dans le détail, c'était il y a moins d'un an ou un an, donc c'est encore quand même assez frais. Mais pour vous donner une idée, ce que l'étude nous dit, c'est que bah, Facebook c'est le réseau des adultes, hein. Ça on le savait, on le répète déjà assez de fois comme ça. Donc les enfants, bah, soit ils connaissent pas, soit ils voient juste leurs parents sur cette plateforme. Pour eux, c'est vraiment pas la plateforme sur laquelle ils ont envie d'aller. Et sur les 11-12 ans, c'est une plateforme qui est en chute libre, hein, qui a perdu quasiment 20% d'audience sur ses enfants. Donc, ils sont vraiment à la bourre. Pas de surprise ensuite, hein, y a TikTok qui est la plateforme qui monte chez les très jeunes, troisième plateforme la plus utilisée chez les 11-12 ans. On a Snapchat qui est largement devant numéro 1, encore en progression avec 90% des 11-12 ans qui ont un compte Snapchat. C'est énorme, j'étais complètement choqué. Et puis Instagram, 90% pardon, des 11-12 ans qui sont inscrits hein, sur les réseaux sociaux bien sûr. Et Instagram est tout simplement numéro 2 et reste à ISO avec ce qu'il y avait l'année dernière environ. Voilà.
Alors, ce qui est marrant dans cette étude là, donc voilà, en lien avec les plateformes que tu viens de citer, ce qui ressort aussi dans l'étude, c'est que cette génération de jeunes, les jeunes invisibles, elle suit des marques de luxe et elle achète sur Wish. Et en fait, ce qui montre en fait qu'ils mimiquent le comportement de leurs parents, qui vont suivre bah, aussi des marques, hein, tout simplement, pas forcément de luxe, et qui vont acheter sur Vinted. Donc en fait, ils reproduisent un certain mode de fonctionnement sur les réseaux sociaux à leur portée. Ils disent aussi qu'ils vont sur TikTok pour jouer et mimiquer les autres personnes qui y sont, hein, parce que tu as beaucoup de jeunes ados ou même de jeunes adultes, hein, je pense à Thibaut InShape ou plein de personnes qui sont très actives sur les plateformes pour les jeunes, ou même qui font des interviews sur Gulli après. Donc ils mimiquent ces personnes-là, et comme je le disais tout à l'heure, ils s'inscrivent sur Snapchat parce que leur maman leur a montré et que ça les fait bien marrer de jouer avec des filtres.
Ouais, t'as raison, c'est une génération qui est de plus en plus consciente en fait, hein, qui a conscience des publicités qui sont ciblées sur les réseaux sociaux. En 2018, 43% d'entre eux pensaient que les plateformes pouvaient leur proposer des publicités ciblées, alors qu'en 2019, 75% d'entre eux le pensent. Donc, ils ont bien conscience, il y en a 3 sur 4 qui ont conscience qu'ils sont la cible de publicité par rapport à leur recherche et à ce qu'ils aiment. Et effectivement, comme tu disais, du coup, ils en jouent aussi. Ils font exprès d'aller regarder les tendances de mode sur les marques de luxe pour pouvoir après se le payer, en tout cas avec des fringues moins chères, mais qui suivent ça. Il y a une autre grosse tendance hein, chez ces jeunes, c'est la montée des messageries privées. Et en fait, on ressent là un peu tout l'impact du gaming qu'il peut y avoir dans cette tendance, puisqu'on à retrouve fond. Discord. Je sais que vous en avez parlé avec, avec la Twitcheuse Moody dans l'épisode avec Moody. Donc, c'est une application de messagerie, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une tendance un peu forum, où il y a 250 millions d'utilisateurs dans le monde quand même. Donc, c'est une grosse, plateforme.
Cette plateforme de discussion, en fait, dont on entend rarement parler quand on n'est pas dans le monde du gaming, elle est très liée aux plateformes de jeux vidéo, à YouTube aussi, notamment à Twitch. En fait, sur Twitch, les personnes qui streament en live, qui jouent aux jeux vidéo, invitent très souvent leurs abonnés à venir sur Discord, sur ce forum. Et très souvent, ils ont des comptes. Du coup, ça crée de communautés de discussion autour d'un jeu vidéo. Du coup, ces jeunes-là, en fait, c'est leur premier pas dans le monde du social media.
Et pour aller dans ce sens-là, il y a aussi l'appli de messagerie House Party qui marche très bien aux États-Unis, mais qui pour l'instant en France n'a pas vraiment percé et qui vient d'être achetée par la société Epic, qui l'intègre du coup à Fortnite. Et, okay. Donc ça pourrait très vite cartonner chez les plus jeunes, puisque ça va devenir vraiment la messagerie de Fortnite.
Ok, oui, donc c'est là où on voit le lien vraiment entre le jeu vidéo, Discord et Fortnite même carrément. Alors on a aussi donc ça soulève plein de questions, hein, forcément. Ouais. J'imagine qu'en écoutant, vous découvrez plein de choses et c'est un peu inquiétant. Je rebondis sur un truc, tu parlais de la publicité tout à l'heure. En nous écoutant, là, je me dis, en fait, s'ils achètent sur Wish, c'est qu'ils sont quand même salement tapés par de la publicité. Parce que nous, Wish, on en voit déjà tous les jours. Alors, j'imagine pas eux. Et c'est que ça marche. Hein, donc, c'est un peu grave. L'autre chose dont on voulait parler, c'est si les plateformes et les marques qui sont sur ces plateformes est-ce qu'elles sont pas un peu trop incitatives? On sait qu'il y a un cadre légal, on en a parlé avant, sur les âges, sur ce qu'on a le droit de faire. Mais est-ce que la responsabilité dans ce sujet n'est pas aussi du côté des plateformes? Aujourd'hui, les plateformes, elles autorisent du contenu à destination des enfants, alors que ces mêmes enfants n'ont pas le droit d'y être.
Et notamment, il y a des plateformes comme Facebook où normalement, on ne peut pas cibler hein, des mineurs en publicitaire. Donc, on peut pas créer une pub et dire « je veux toucher les 13-18 ans qui habitent à Lyon ou qui habitent à Paris ». C'est quelque chose qui est interdit, qui est impossible sur ces plateformes-là, par exemple.
Exactement. Alors, j'ai un bon exemple. Hein. Hier, je regardais le compte Instagram de Gulli. Gulli, cette mm-hmm. chaîne télé. Il est clairement destiné aux enfants, hein, avec leur star préférée, des images de dessins animés. J'ai trouvé des trucs un peu borderline en termes d'éthique social media. Dans leur post, on repartage les comptes Instagram d'enfants de 11 ans et moins. Alors, tu sais, t'as toujours ces présentateurs qui sont un peu grandes sœurs, qui doivent avoir 18 ans tout juste. Elle est avec une petite fille. Alors, ça, aujourd'hui, on était avec, je ne sais plus comment, official@thevoicekid@11yearold. Voilà, donc, ils présentent cette fille qui est venue sur le plateau. Et ben, il se trouve qu'elle a un compte où elle a 11 ans. Et tu vois bien dans la description 11 year old, j'aurais dû le dire en anglais. Et on trouve aussi par contre des parents qui font bien leur travail, hein, parce que je suis arrivé sur la page Gulli, alors je vous invite à regarder, et j'ai trouvé le compte d'Emily, 14 ans, et elle écrit compte surveillé par mes parents, donc ça me fait beaucoup rire.
Ça c'est drôle. Et effectivement, tu me donnes envie de parler du coup un peu de YouTube Kids, parce que YouTube tout court c'est un point d'entrée important pour les moins de 13 ans. Puisque effectivement c'est une plateforme sur laquelle souvent les parents acceptent que leurs enfants aillent, alors qu'ils n'acceptent pas forcément sur des réseaux sociaux, mais ils se disent ok, devant YouTube, regarde des dessins animés si tu veux, ou regarde du contenu sur YouTube.
Tu peux leur mettre un compte YouTube Kids ou avec une limite d'âge.
Exactement. Et du coup, bah, déjà les moins de 13 ans, c'est une grosse partie de l'audience des YouTubers stars, hein, faut le savoir. Et puis il y a un écosystème qui a été créé totalement pour eux qui s'appelle YouTube Kids. Et là, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que sur YouTube Kids, eh ben, on retrouve aussi des kids influenceurs, des influenceurs enfants qui sont...
C'est pas possible, c'est interdit ça, John.
Qui sont totalement créés et faits pour influencer les enfants. Donc, on les appelle les kids influenceurs. On en voit surtout aux États-Unis. En France, il n'y en a pas encore trop, même si ça existe, hein, mais il n'y en a pas encore trop. Et donc, dans l'idée un peu, nous, on a connu Jordi, par exemple. Hein, dur d'être petit, c'est un peu le premier kids influenceur, mais bon, on est déjà vieux. Aujourd'hui, il y a par exemple Samia Ali. Elle a 4 ans. Elle était influenceuse avant même de savoir dire oui ou non, puisque ses parents ont tout simplement tout filmé, documenté, la grossesse, même l'accouchement était relayé sur YouTube. Et si la plupart des contenus sont justement juste des moments de vie de cette petite Samia, ben, il y en a d'autres, ce sont des contenus sponsorisés hein, par des marques, de jouets ou d'alimentation.
Le papa répondait au message en même temps.
Je ne sais pas, ça doit être assez bizarre. Et aujourd'hui, on retrouve des marques hein, comme Walmart, Mattel, DreamWorks, Claire's, qui payent justement une fortune des enfants influenceurs pour faire du placement de produits. Il y en a un, par exemple, il y a un autre kids influenceur qui s'appelle Ryan Tubbs, 7 ans, qui était en 2018 parmi la liste des stars YouTube les mieux payés du monde dans le classement Forbes. C'est pour vous donner une idée de à quel point les marques dépensent de l'argent auprès de ces enfants. Et donc, c'est bien beau de faire des plateformes comme YouTube Kids où les contenus sponsorisés sont censés être interdits, mais on retrouve des placements de produits partout dans les vidéos des enfants influenceurs. Moi, ça me choque un peu.
Et ça ouvre une question quand même. En 2019, on a des plateformes qui savent détecter et bloquer automatiquement une publication contenant une image un peu trop retouchée. Est-ce qu'elle ne devrait pas être capable, cette plateforme, de détecter des hashtags kids ou des hashtags 12-year-old? On en voit partout. Et de les supprimer tout simplement,
surtout
de les bloquer.
C'est pas très compliqué. Alors après, on pourrait discuter aussi de ça, parce qu'on pourrait se dire que de toute manière, même s'ils interdisaient ce hashtag, les enfants trouveraient un autre hashtag pour se retrouver. Mais la question des enfants sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est une question qui est assez importante, qui est assez philosophique aussi sur la place de l'enfant des enfants dans notre société, et sur est-ce que quand on est un enfant, on a le recul nécessaire, la conscience nécessaire pour savoir si on a envie ou non d'être sur les réseaux sociaux, et c'est aux parents de protéger leurs enfants.
Alors j'imagine que tout ce qu'on vous a dit là vous a fait pas mal réfléchir, ou en tout cas vous a montré une vérité qu'on voit pas souvent, ces enfants invisibles. En conclusion, si vous voulez bien, j'ai trois petits chiffres histoire que vous repartiez avec une bonne chose. Alors c'est pas des chiffres d'ailleurs, pardon. Les lens et filtres en réalité augmentée sont utilisés dès le milieu de la primaire. Les messageries commencent à être utilisées en fin de primaire. La pratique d'exposition publique de soi débute au collège. Voilà.
donc laissez pas traîner votre fils, hein, comme le célèbre groupe. Et puis, si vous avez des retours à nous faire là-dessus, d'autres infos que vous voulez échanger dessus, n'hésitez pas à être super natif sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, même Pinterest
et
ou
TikTok.
et bien sûr, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser une note ou commenter. Puis surtout, parlez-en autour de vous.
Allez. Très bonne journée à tous.
Ciao, bonne journée, à demain.